60. Elles sont championnes d'Europe.
C'est de Christian Dominici, c'est un génie.
Donne la médaille d'or à Laura Flessel.
Second poteau bavard.
Oh, extraordinaire. Marie-José Pérec, championne du monde. 49 secondes et 29 centièmes.
Deux buts de Zidane, un but de Petit. Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille.
Et tout de suite, la tribu du sport.
Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans la tribu du sport avec moi aujourd'hui, eh bien, les sportifs et sportives habituelles. Amaury, bonsoir.
Bonsoir.
Ça va?
Très bien, et toi?
Écoute, très bien, je te remercie. Thaïs, bonsoir.
Bonsoir.
Ça va bien?
Oui.
Parfait. Ulysse, bonsoir.
Bonsoir.
Comment vas-tu? Ça va.
Ça va.
C'est pas un grand ça va, mais ça
voilà.
va. Ok. Hugo, bonsoir.
Bonsoir.
Est-ce que tu... Oh, toi, ça va. Très bien.
Oui, moi, ça va.
Bon, eh ben, écoute, parfait. Clément, bonsoir.
Bonsoir.
Comment vas-tu?
Bien, et toi?
Écoute, je te remercie, ça va très bien également. On a également Antoine avec nous. Bonsoir.
Bonsoir, bonsoir.
Un nouveau dans la bande.
Un nouveau.
Ça va bien?
Ça va.
Ok,
et
parfait.
Toi, comment tu vas?
Écoute, toujours très bien. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir un invité dans cette émission. Et c'est Quentin Marie. Marion, bonjour.
Bonjour.
Bonsoir d'ailleurs, je vais rester sur la même tonalité. Et puis, est-ce que je peux vous demander de vous présenter à nos auditeurs, s'il y en a qui ne vous connaissent pas?
Oui, oui, bien sûr, mais déjà vous pouvez me tutoyer, hein, évidemment. Donc je m'appelle Quentin Marion, je suis entraîneur du centre de formation de Saint-Nazaire Volleyball, ancien joueur professionnel, et puis je pense que pour le reste, j'aurai l'occasion d'en parler plus tard.
Ok, et on commence directement parce que je suis sûr que vous avez déjà des questions.
Tout à fait.
Ouais, Amaury, il a toujours des questions, c'est un peu sa spécialité, hein, voilà.
Bon, allez, vas-y. Le sport.
Vas-y, Amaury, lance-toi. Hein,
Le pôle formation du SNVBA est tout nouveau, c'est la première année. Pourquoi a-t-il été créé si tardivement?
En fait, c'est... une demande de la fédération et de la ligue quand on est en première division. Donc le club est monté il y a un an et demi là en Liga. Donc avant le club était en Ligue B pendant plusieurs années, je crois 4 ans ou 5 ans. Et là, donc l'année dernière, ils ont accédé à la Liga. Là, c'est la deuxième année. Il y avait ce projet-là déjà de créer un centre de formation qui était resté un petit peu dans l'oubliette, on va dire, par rapport à la division et au budget, parce que ça demande aussi un budget. Et là, avec l'accession en Liga, il y a eu la volonté de recréer ce centre de formation. Donc, il a été créé, on va dire que tout a été préparé l'année dernière et il a ouvert ses portes cette année.
Et comment ça se déroule? Il y a un parcours sportif.
Qu'est-ce que c'est déjà un centre de formation?
C'est ça.
Ouais, un centre de formation, c'est en fait, voilà, on accueille des joueurs qui ont entre 17 et 21 ans, qui ont un potentiel pour pouvoir accéder au haut niveau français, en tout cas qu'on estime. Donc il y a des joueurs qui se présentent. Il y a aussi une recherche de notre part sur les structures de Pôle Espoir ou sur les équipes qui font les phases finales France Jeunes. Donc on essaye de repérer un peu les potentiels et on essaye de recruter des jeunes avec du potentiel qui ont un double projet, et sportif et scolaire. Donc ça, c'est une obligation dans le centre de formation, c'est d'avoir ce double projet sportif et scolaire, parce que le volley n'est pas comme le foot, on gagne pas énormément d'argent, même si ça permet de vivre quand on est professionnel. Mais voilà, il y a quand même cette volonté qu'ils aient quelque chose au cas où ils n'y arrivent pas à jouer en professionnel. Et pour l'après-carrière, parce que là, une carrière de volley, c'est un peu comme tous les sports de haut niveau, ça va jusqu'à 35 ans, c'est déjà bien, quoi.
Est-ce que c'est déjà arrivé, par exemple, que pendant de 17 à 18, de 20 ans, est-ce que c'est déjà arrivé qu'il y en a, ils quittent le centre de formation qui sont exclus parce qu'ils sont pas
cette
un
année,
si bon niveau?
Cette année, en tout cas, vu que c'est la première année.
Voilà, c'est ça.
Pour l'instant, là, on a 8 joueurs donc au centre de formation. Pour l'instant, les 8 joueurs sont encore présents et seront normalement présents jusqu'au moins à la fin de l'année. Après, ça peut arriver qu'un joueur fasse 2 ans et qu'il se rende compte ou que le club décide de pas continuer avec lui et qu'il trouve pas un autre centre de formation parce qu'il a pas le niveau nécessaire pour pouvoir jouer en professionnel. Donc après, c'est un autre parcours, c'est continuer les études, chercher dans des divisions inférieures peut-être un projet pour pouvoir avoir quand même du temps de jeu au niveau National 2 Elite, qui est la troisième division française, et essayer de faire encore une fois le scolaire ou le travail en plus de jouer au volley et gagner un peu d'argent grâce au volley. Mais oui, ça arrive qu'il y en ait qui n'arrivent pas, évidemment.
Et les 8 joueurs qui sont dans le pôle formation, est-ce qu'ils jouent dans quelles équipes ? La pré-nationale, la 18
Les M18. Ouais, non, alors là, sur les 8 joueurs, nous, on a des statuts un peu différents. En fait, il faut savoir que sur ces 8 joueurs, on en a 2 qui sont déjà essentiellement avec l'équipe professionnelle. Donc, ils s'entraînent tous les jours avec les professionnels, qui jouent avec les professionnels, qui ont déjà eu du temps de jeu sur les matchs pro, qui s'appellent Liam Varier et Henri Léon. Donc, qui ont déjà du temps de jeu avec les pros, qui sortent du Centre National de Volleyball, donc le CNVB, qui est l'équipe de France Jeune, on va dire, en fait, où tout le monde est là-bas. Après, on a 2 autres joueurs qui s'entraînent quotidiennement avec les pros, mais qui jouent essentiellement avec le centre de formation. Donc, il y a une division avec tous les centres de formation de France, qui s'appelle CFC Elite Avenir. D'accord ? Donc, c'est une division qui est nouvelle, qui a été créée, ça, c'est la deuxième année, là, qu'il y a cette division-là, pour que tous les centres de formation se rencontrent. Et après, on a les autres joueurs, donc là, ça fait 4. Sur les 4 autres, ils sont exclusivement centres de formation. Donc, ils s'entraînent tous les jours, musculation et volet, ou 2 fois volet par rapport aux cours, ça dépend pour ceux qui peuvent. Mais ils s'entraînent tous les jours. Et la journée, ils vont en cours, normalement, comme un lycéen, ou ceux qui sont en études sup, en BTS ou au STAPS.
Et... vous faites ces 8 joueurs. Est-ce que vous regardez aussi ce qui se passe dans les autres équipes, moins 18 régionaux par exemple?
Ouais, bah moi dans ma fonction, j'entraîne le centre de formation. Je vais voir les entraînements des pros 2 fois par semaine pour voir les jeunes qui s'entraînent avec l'équipe première. Et j'entraîne aussi les moins de 18 ans. Donc ça c'est dans ma fiche de poste. Moi j'entraîne aussi les moins de 18 ans. Ce qu'on va appeler l'équipe 1, moins de 18 ans. Ceux qu'on estime qui pourront potentiellement plus tard peut-être intégrer ce centre de formation en étant les jeunes joueurs locaux. On veut aussi leur donner l'opportunité. L'objectif, c'est évidemment le plus possible d'avoir de jeunes issus du club de Saint-Nazaire dans cette équipe CFC Elite Avenir. Et on va chercher en plus quelques joueurs à l'extérieur. Mais si on pouvait avoir 12 joueurs de Saint-Nazaire, ça serait l'idéal. Mais c'est compliqué, évidemment, c'est quand même le haut niveau. Donc, pour trouver 12 jeunes potentiels futurs pros, c'est compliqué.
Et les jeunes, ils alternent entre le lycée et le pôle. Mais comment ça se passe? Ils font 5 jours à leur lycée ou leur étude? Comment ça se passe?
Non, en fait, ils sont... Donc, on en a un qui est encore lycéen, qui est en terminale. Donc, lui, il va au lycée comme tout le monde, en fait. Il y a le mardi, il a 2 heures pour manger. On a la chance à Saint-Nazaire d'avoir le lycée Aristide qui est collé à la salle Coubertin. Donc, le mardi, par exemple, il a 2 heures pour manger. Il vient, il s'entraîne 1 heure. Après, il mange, il retourne en cours. Et tous les soirs et l'entraînement, on en a 2 autres qui sont en BTS. Donc c'est à peu près le même rythme que le lycéen. Et on en a au STAPS. Donc eux, c'est différent parce qu'ils ont un statut sportif de haut niveau. Donc ils sont dispensés de certains cours. Ils ont quelques cours obligatoires. Malheureusement, il n'y a pas de STAPS à Saint-Nazaire. Donc ils vont sur Nantes et ils reviennent quand ils vont en cours. Mais heureusement, ils n'y vont pas tous les jours grâce à ce statut sportif de haut niveau. Mais voilà, pareil, ils reviennent tous les jours, ils s'entraînent le soir. Mais sinon, le rythme, il est juste qu'il n'y a pas de... Quoi, il est juste? C'est dur de dire ça, mais en fait, c'est un rythme qui est très exigeant, parce que c'est vraiment court, volet, court, volet, court, volet, court. Il n'y a pas beaucoup de temps pour les loisirs, mais c'est aussi le chemin pour avoir une chance de réussir dans le sport, qui est leur passion aussi, donc ça reste un loisir.
Oui, c'est des choix aussi. Donc,
c'est des choix, c'est complètement des choix. C'est des choix qu'eux prennent et c'est le chemin qu'il faut suivre pour avoir une chance d'y arriver. Et je pense que c'est pas trop dur d'aller jouer au volet tous les soirs, même si c'est une exigence, c'est fatigant, c'est des contraintes. Il y a des sacrifices par rapport à la vie d'un jeune, mais c'est des choix et c'est le chemin qu'il faut prendre.
Et c'est le chemin que toi t'as pris quand t'as commencé le volet ou pas?
Ouais, c'est ce que moi j'ai fait quand j'ai commencé le volet. Donc j'étais en pôle espoir, comme étaient la plupart des jeunes là, qui sont maintenant dans les centres de formation.
Okay.
Donc le pôle espoir, en gros, c'est, on va dire, à partir de 14 ans, 14-15 ans, on rentre dans des structures. Et après, j'ai intégré le club de Beauvais en professionnel. Donc ma première année, j'étais en terminale. Et c'était pareil, cours, volet, cours, volet. Et il n'y avait pas encore cette structuration de centre de formation. Donc moi, j'étais vraiment professionnel, en fait. Okay. Donc j'étais en terminale, mais j'étais professionnel. Donc j'avais aucun cours adapté. J'étais dans un lycée normal. Ouais. Donc quand je ratais les cours, je ratais les cours, quoi. Comme tout le monde, j'avais pas... Là, ils ont des aides, ils ont des tuteurs qui peuvent les aider au club quand ils ont des problèmes. Moi, j'étais un peu plus livré à moi-même, mais comme tous les sportifs de mon époque, là, c'est une vraie évolution, en tout cas dans le volley, où, mais je pense dans tous les sports, où il y a beaucoup plus de suivi sur le scolaire pour les jeunes, parce que voilà, on sait que l'après-carrière arrive vite et qu'en plus, tout le monde n'a pas de carrière aussi, donc c'est bien d'avoir un bagage à côté.
Est-ce que vous auriez bien aimé avoir ce genre de structure quand vous étiez jeune?
J'aurais bien aimé... Oui, c'est sûr que il y a beaucoup d'avantages. Donc, si tu veux, par rapport au double projet, pouvoir être plus accompagné sur le scolaire, tout ça, j'aurais bien aimé. Après, maintenant, les jeunes sont jeunes, on va dire, entre guillemets, plus longtemps. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que moi, je suis arrivé, 17 ans, j'étais professionnel. Donc, j'avais le rythme des pros, j'étais obligé de rentrer dans ce cadre-là. Donc il y a plus de monde qui, entre guillemets, se cassait la figure sans avoir le parcours scolaire à côté. Parce que quand on est pro, c'est difficile de faire... Il y en a qui arrivent, mais c'est difficile de faire les deux. Mais par contre, à 18 ans, j'étais dans un rythme professionnel, dans une équipe pro. Et quand on est dans une équipe pro, on va dire que c'est comme Mbappé, et on parle pas d'âge. Il y a pas... faut performer, et si on performe pas, voilà, c'est entre guillemets, tant pis pour nous, c'est difficile, mais c'est...
Ça passe ou ça casse, quoi.
Ouais, c'est le monde professionnel, quoi. C'est difficile, mais faut performer, il faut prouver tout le temps et monter et avancer.
Il doit toujours gagner sa place, quoi.
Toujours gagner sa place, ouais. Mais c'est le monde professionnel, quoi. C'est comme ça.
Les moins de 18 que vous coachez jouent la Coupe de France cette année. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ça se déroule pour eux?
Ouais, alors bien sûr, je peux expliquer, mais c'est pas que les moins de 18 que je coach, hein, c'est toutes les catégories du club sont inscrites en Coupe de France. Il y a énormément de clubs, je crois que c'est en M18 filles, il me semble, il y a plus de 460 clubs inscrits.
Ah oui.
Ouais, sur la Coupe de France, et en fait, le système de Coupe de France, donc il y a un tour là, ce week-end, pour les M15. En fait, c'est des poules de 3 et les deux premiers passent. Et à chaque fois, et ça avance comme ça en fait. Et tous les mois, il y a un tour de Coupe de France et c'est le fonctionnement, c'est ça. Poules de 3, les deux premiers passent jusqu'à arriver aux phases finales, ce qu'on appelle les phases finales, où il y a 12 clubs, les 12 derniers clubs en fait, qui s'affrontent pour le titre.
Et l'année dernière, ils sont allés plutôt loin, non?
L'année dernière, les M15 garçons sont allés au dernier tour. Ils se sont fait éliminer au dernier tour. Les M13 filles, dernier tour aussi. Et les M15 filles, avant-dernier tour. Donc, c'est un club qui commence à performer en jeune. Donc, c'est bien. C'était pas le cas il y a encore 5-6 ans. Et là, on commence à avoir vraiment dans toutes les catégories... passe des tours en Coupe de France, au moins 3, 4, 5 tours. Donc c'est hyper intéressant parce que ça veut dire qu'on travaille bien chez les jeunes, que le club travaille bien chez les jeunes et que ça soit chez les garçons et les filles, tout le monde avance vraiment bien.
Ouais, vu le niveau des M13 et M15 filles, il va falloir un centre de formation féminin. Hein.
Il est à Nantes. Il est à Nantes. Ça serait bien. Ça serait bien, mais...
Chaque chose en son temps.
Ouais, puis aujourd'hui, la situation économique générale, hein, c'est pas que du SNVBA, c'est général, peut pas permettre à un club d'avoir et les garçons et les filles. C'est déjà difficile d'avoir un des deux genres, alors avoir les deux, c'est compliqué.
Bah, et puis l'intérêt, c'est que pour le coup, en ayant un à Nantes, c'est que pour les Nantais, venir à Saint-Nazaire, c'est pas si loin, et à l'inverse pour les filles.
Ouais, mais à Nantes, il y a un club garçon aussi, mais c'est deux clubs différents.
Il y a plus une bonne équipe, les Neptunes de Nantes féminines sont
plutôt... Les Neptunes de Nantes sont très bonnes.
Il y a une bonne structure avec la structure handball, elles ont fusionné, qui est l'ancien club, je crois, de Nicolas Burel. Avant les Neptunes de Nantes, c'était un club mixte.
Oui.
Et qui, ils ont maintenant,
ils
sont
devenus. Ah ouais, quand il était très jeune.
Ah, il a travaillé le sujet, à Maury.
Bien, oui. Ça, c'est quand il était très jeune. Après, il a joué en pro à Toulouse, longtemps. Où il a fait ses
études. S'il nous écoute, faut pas qu'il me prenne le mal le fait de c'est quand il était très jeune. Il est toujours jeune.
Il est plus jeune que moi, il le prendra pas mal.
Et si je me trompe pas, titre personnel, vous avez vécu une expérience assez incroyable avec l'équipe de France jeune.
Ah, cet été
au Brésil.
En Argentine.
En Argentine.
Ah, il a vraiment bossé le sujet.
Ah ouais, bravo.
Est-ce que vous pouvez nous en dire plus?
Ouais, bah j'ai eu la chance de participer au championnat du monde U19, donc des moins de 19 ans en Argentine. Je faisais partie du staff cet été et c'est ma première expérience en tant qu'entraîneur au niveau international. Et on a fini champion du monde, donc très belle expérience. Très belle, c'était vraiment... Quand on gagne, tout est top. Ouais. Donc l'expérience était géniale, la finale, la fin, elle est géniale. Donc c'est vraiment une super expérience et j'ai la chance de repartir avec la même génération là pour les prochaines étapes. Donc il y a une compétition en janvier là, les WEFSA. C'est un tournoi de qualificatif pour les championnats d'Europe et l'été prochain il y a les championnats d'Europe. Donc en espérant avoir les mêmes résultats.
D'accord. Merci.
Alors, vous faites partie quand même des joueurs qui ont marqué l'histoire du SNVBA, parce que moi, je me rappelle, je suis un peu plus âgé que les jeunes autour de la table, mais je me rappelle bien de vous sur le terrain. Quand on vous a demandé de revenir à Saint-Nazaire, vous vous êtes dit quoi? Ça a été une évidence ou c'était, comment?
Non, moi, mon parcours est assez particulier, parce que j'ai quoi assez particulier? J'étais passeur, j'ai joué à Saint-Nazaire un an quand j'avais 20 ans. Donc, ça monte, ça date quand même. Après j'ai fait la suite de ma carrière en tant que passeur et il y a là bientôt 10 ans il y a Gilles Gosselin qui était à la tête du club. Le club était en Liga, était redescendu en élite pour des raisons financières et en fait il m'a proposé de rejoindre le club avec un changement de poste en passant en réceptionneur attaquant. Donc c'était mettre un terme à ma carrière de passeur, donc ça m'a demandé quand même pas mal de réflexion mais voilà, le challenge était hyper intéressant de voir si je pouvais performer aussi à haut niveau sur un autre poste. Et j'avais envie de me challenger par rapport à ça. Donc je suis revenu et je connaissais déjà la ville, même si ça a bien évolué par rapport à il y a 20 ans. Ça a bien changé la ville en positif. Donc je connaissais déjà un peu le club, je connaissais un peu la ville, je connaissais la région qui m'avait beaucoup plu déjà à l'époque. Donc voilà, je commençais aussi à être un peu plus vieux, donc pour finir ma carrière, je pensais que c'était le bon endroit, donc on est venu ici avec ma famille pour finir, et c'était trois très bonnes années pour finir ma carrière de joueur. On a fait l'accession en Ligue B direct, et après deux belles saisons en Ligue B, on perd en demi-finale des playoffs, et à la suite de ça, j'ai eu l'opportunité de rentrer en tant qu'éducateur au club, donc... C'était, je pense, la bonne option.
Ah oui, mais c'est vrai que c'est rigolo de revenir des fois sur des anciens clubs, j'imagine.
C'est rigolo parce qu'en plus, je sais pas si vous connaissez un peu, mais il y a toujours les mêmes bénévoles qui étaient là à l'époque. C'était vraiment l'ambiance du club, elle est très familiale, très, très agréable. Donc, c'est marrant de revoir les mêmes personnes et avec un nouveau projet et vraiment une envie d'évoluer. Et le club depuis fait que évoluer, donc moi là, j'étais reparti après à Rennes, là je suis revenu cette année, enfin, c'est le club il continue d'évoluer, donc c'est top de voir un club comme ça.
Merci.
Ah bah moi j'ai encore des questions.
Ah, oui, non mais c'était
ah,
merci.
Oui. Ah oui d'accord. Thaïs, t'as des questions? Non. Moi c'est sur le côté coach. Je sais pas, je trouve que c'est toujours assez intrigant le coach. Je sais pas pour vous, hein, parce que moi je suis pas coach. Hein. Mais du coup, comment on coach une équipe? Comment on arrive à faire que ça fonctionne une équipe? Parce que on voit bien que c'est pas simple des fois de faire fonctionner des gens ensemble. Et là, une équipe, ça va au-delà de. Enfin, voilà, une équipe, c'est quelque chose. Une équipe en sport, c'est quelque chose de fort. Donc, comment on arrive à faire fonctionner ça?
Comment on arrive? Je sais pas si j'ai la clé, mais moi, ma façon de faire, en tout cas, c'est d'essayer de m'adapter le plus possible aux personnes que j'ai en face de moi. Et en plus, par rapport au coaching, c'est aussi très différent quand on coach des joueurs professionnels. Là, ce que je faisais à Rennes, là, en coachant le centre de formation, qui sont des jeunes joueurs avec vraiment un besoin d'apprendre, on leur demande pas du résultat immédiat et où il faut absolument gagner. Là, c'est vraiment sur du moyen-long terme, donc c'est plus apprendre à les connaître, discuter avec eux, et après voir leurs défauts, essayer de travailler tous les jours pour essayer de qu'il y ait de moins en moins de défauts et qu'ils progressent sur le plan technique et tactique. Et avec les jeunes, c'est encore autre chose, parce qu'il faut qu'ils viennent prendre du plaisir, faut qu'ils prennent du plaisir à venir s'entraîner, et en même temps, il faut aussi qu'ils comprennent, pour ceux qui ont l'objectif d'évoluer à plus haut niveau, même si on essaye toujours de les pousser à leur plus haut niveau, parce que l'objectif, c'est pas forcément de jouer en pro, mais c'est de se dire, bah, si je peux jouer en N3, faut que j'arrive à jouer en N3. Donc c'est comprendre leur faire comprendre l'exigence, mais toujours en gardant cette notion de plaisir et de jeu. Après, c'est ma vision des choses. C'est comme ça que moi, j'aimais voir le sport. C'est comme ça que j'aime l'enseigner, on va dire. Mais voilà, est-ce que c'est la bonne solution? Je me permettrai pas de dire ça, mais c'est comme ça que moi je vois les choses.
Mais voilà, c'est comment créer des fois aussi une alchimie entre des joueurs, voilà, c'est...
Ouais, ça c'est passer du temps,
du temps. Hein,
c'est passer du temps, c'est essayer de faire des activités un peu en dehors aussi, mais même ne serait-ce qu'un déplacement, quand on part sur une journée de déplacement, le repas tous ensemble, bah c'est une activité quand même où ils prennent du temps pour apprendre à se connaître eux entre eux et voilà, après c'est encore une fois inculquer on vient s'entraîner, donc on vient pour travailler à l'entraînement et puis on va jouer quand c'est pour les matchs, donc là qui c'est vraiment cette notion de plaisir, surtout qu'on plus qu'avant, je pense, on est dans une époque où la compétition est un stress plutôt qu'un plaisir, alors que faut vraiment le prendre comme un moment de plaisir où on va se confronter, donner tout ce qu'on peut pour gagner. Et puis si on perd et qu'on a tout donné, bah c'est comme ça, c'est le jeu et il faut repartir à l'entraînement et voilà, c'est comme ça.
Et pour toi, quelles seraient les principales qualités d'un entraîneur de centre de formation, d'un coach de centre de formation?
Bah déjà ça va dans le nom, c'est d'être formateur.
Ouais.
Parce qu'il y a des entraîneurs qui sont pas formateurs, qui sont vraiment sur la performance ou sur les statistiques, le résultat. Être formateur, c'est faut aussi connaître un minimum la technique et la tactique du haut niveau et comment aider les jeunes à progresser en étant capable de, encore une fois, je pense, s'adapter aux jeunes et aux joueurs. Il n'y a pas, à mon avis, il n'existe pas qu'une seule technique, mais c'est comment je vais faire par rapport à la morphologie ou à la mentalité de ce joueur-là pour qu'il arrive à s'améliorer et qu'il trouve sa technique.
Pour que lui ensuite puisse progresser.
Pour que lui puisse progresser et voilà, soit de mieux en mieux. Après, il y a forcément des bases obligatoires, on va dire. Mais voilà, et je pense pour un centre de formation, être à l'écoute et être bienveillant avec les joueurs pour qu'ils se sentent bien, et parce qu'ils sont quand même, pour certains, très jeunes, 17 ans, j'estime que c'est encore jeune, et il y en a pour qui c'est pas facile de partir loin de la famille.
Ouais.
Voilà, pour ceux qui sont tout seuls ici, c'est faire attention quand même à ça aussi.
Mais, par exemple, pour des gens de 15 ans ou 14 ans, les entraînements par exemple de deux équipes différentes de même âge, est-ce que vous ferez les mêmes entraînements?
Comment ça, je comprends pas tout à fait.
En fait, est-ce que vous proposez les mêmes entraînements à des personnes du même âge, même si c'est vu que c'est une équipe différente, même si c'est une équipe différente?
Si j'ai deux équipes,
oui, voilà,
du même âge,
est-ce que vous proposeriez deux
entraînements? Si ils ont deux niveaux différents, c'est ça que tu veux dire?
Pas obligatoirement le même niveau quoi.
En fait. S'ils ont le même âge et à peu près le même niveau, je vais proposer des entraînements assez similaires. Maintenant, ça va être comment je vais, s'ils n'ont pas les mêmes mentalités ou les mêmes attentes, qu'est-ce que je vais trouver pour les motiver et les faire travailler? Et si sur des jeunes du même âge, j'ai un groupe où très clairement ils viennent parce que je suis un peu méchant, mais papa et maman, ils ont dit, il faut aller faire du sport, vous êtes obligés, ils prennent pas vraiment de plaisir à être là.
T'es grand, faut faire du volley.
Voilà, t'es grand, faut faire du volley, alors qu'il a envie de faire de la danse classique. Bah, je vais pas proposer la même chose, je vais essayer d'être beaucoup plus ludique que sur une équipe qui cherche à progresser, à performer, où là, on va faire plus de répétitions, plus de gammes, plus de... Je vais mettre plus d'exigences aussi, parce que ça va avec, avec leurs attentes aussi.
Et comment...
Je réponds à ta question.
Oui, merci.
Et comment est venue cette passion pour le volley ?
Ma passion pour le volley, elle est depuis presque toujours. Mon père est un grand passionné de volley. Donc, il n'était pas joueur, mais il est tombé amoureux de ce sport, je pense, quand il était à la fac. Donc, moi, j'ai des frères et sœurs. On a grandi dans les gymnases. Comme on dit, j'ai toujours joué au volley. J'ai fait plein d'autres sports. Mais à côté de ça, j'ai toujours fait du volley. J'ai adoré ce sport parce que c'est là que j'ai fait mes amis. Je pense, un sport, quand on performe, on l'apprécie aussi plus. J'ai fait tous mes étés à jouer au volley. Enfin, j'ai toujours joué au volley. Toute ma vie, j'ai joué au volley. Ça a toujours été, en fait. C'était une évidence pour moi.
Est-ce que votre expérience en tant que joueur et les coachs que vous avez pu avoir vous aident dans votre manière de faire apprendre aux jeunes ?
Oui, bien sûr. En fait, c'est ce qui m'a créé, moi, l'entraîneur que je suis aujourd'hui. Mes expériences passées, les entraîneurs que j'ai eus, ceux que j'ai trouvé bien, ceux que j'ai pas aimés, ceux que je me suis dit « je serais surtout pas ça ».
On en apprend tant des fois avec ceux où on se dit « je ne ferais surtout pas ça » que...
Bien sûr, même peut-être plus sur soi-même avec ceux où on se dit « on ne fera surtout pas ça ». Mais oui, et puis mon expérience de joueur, ça va, je pense, à créer ma vision des choses aujourd'hui aussi.
D'autres questions ?
Non.
Peut-être moi sur le côté sport d'équipe, parce que vous avez dit que vous aviez fait d'autres sports, mais est-ce que c'était le côté aussi sport d'équipe qui plaisait dans le volley ou enfin, parce que c'est particulier un sport d'équipe malgré tout.
Ouais, c'est particulier un sport d'équipe et j'ai fait un peu de tout les sports, combat, raquette, foot, sport d'équipe, enfin, un peu de tout. Et c'est vrai que le tennis par exemple, j'avais pas du tout accroché alors que j'étais pas trop mauvais, mais l'ambiance, l'ambiance autour du tennis, alors que je trouve que c'est un super sport, mais encore une fois, ça, mais c'est propre à moi. Hein. Mais j'ai pas trop accroché. Et c'est vrai que le sport d'équipe, d'être avec les copains, parce que quand on est en jeune, c'est très souvent c'est des copains ou ça devient des copains. J'ai toujours aimé. Et quand on devient professionnel, c'est pareil. Hein. Il y a des années où le groupe il vit mieux que d'autres, mais les années où on n'a pas trop de copains parce que ça se passe pas bien. Des années où le groupe est plutôt cool et on se fait des copains, même si ça tourne beaucoup. Mais cette vie de groupe, elle est pour moi. J'ai toujours aimé ça. C'était important pour moi d'avoir la vie de vestiaire, comme on dit. Donc ça, c'était important pour moi. Après, c'est vrai que le résultat, du coup. La vie de groupe a un impact sur le résultat.
Et inversement, du coup.
Et inversement, on peut vite rejeter la faute sur les autres. Mais ça, c'est plus... C'est les grands, on va dire. Mais pas forcément, d'ailleurs. Mais on peut vite rejeter la faute sur les autres ou gagner aussi parce que la vie de groupe est bonne. L'avantage, entre guillemets, du sport individuel, c'est que si on perd, normalement, c'est qu'on a été moins fort.
Oui.
C'est
plus légitime. La réponse est tout de suite.
C'est simple. Alors on peut trouver l'arbitre ou ce qu'on veut, mais généralement c'est qu'on a été moins fort que l'adversaire.
Ouais, même si on sport, l'arbitre a toujours raison.
Ouais. Mais on peut toujours trouver l'excuse de l'arbitre.
D'ailleurs, en parlant de ça, est-ce qu'il y a une formation d'arbitre au SNVBA ?
C'est pas géré par le SNVBA, mais tous les clubs peuvent proposer aux jeunes de faire des formations d'arbitre gérées par le comité, c'est géré par le département. Et après la ligue, si on évolue, mais c'est rarement géré par les clubs. Alors, on peut y avoir au début, si vraiment un jeune est passionné par l'arbitrage, on peut faire. Mais après, c'est géré par la ligue et par le comité.
Est-ce qu'il y a eu des joueurs du club qui ont fini arbitre à haut niveau au SNVBA ?
Alors là, je ne pourrais pas te répondre.
Alors, Amaury, c'est notre arbitre, en fait. Il est arbitre au hand, et du coup, l'arbitrage, ça le passionne.
Parce que des fois, dans des grands clubs, il y a aussi des joueurs qui finissent arbitre et qui à haut niveau.
Alors, bah, je peux te dire qu'il y a un jeune que moi j'ai entraîné il y a 5-6 ans qui est aujourd'hui arbitre, qui est sur Nantes pour ses études et qui arbitre à Nantes, qui est en train de gravir les échelons petit à petit, qui n'est pas aujourd'hui un grand arbitre, mais il est trop jeune, hein, il a 18 ans, même pas 17 ans. Et après, à ma connaissance, il n'y a pas d'ancien joueur, en tout cas de haut niveau, qui veut devenir arbitre. Tout simplement, c'est, quand tu passes ton temps à critiquer l'arbitre, oui, tu veux pas devenir arbitre, tu sais que c'est parce que c'est dur d'être arbitre, c'est très dur. Mais voilà, il y a des jeunes qui font de l'arbitrage au club, mais à quel niveau, ça, je pourrais pas te répondre. Je crois pas, mais je sais pas.
En plus, le volley et l'arbitrage, les derniers matchs de l'équipe de France, bon, on va peut-être pas revenir là-dessus
c'est scandale.
C'est étendu.
Mais l'arbitre a toujours raison.
Mais oui, bah, c'est ce qu'on rappelle souvent dans l'émission, c'est qu'à partir du moment où on fait un sport avec un arbitre, eh bien,
tous les sports. En plus, au volley, il est seul. Enfin, il y a de la vidéo aussi, mais au filet,
ils sont deux arbitres. Deux arbitres plus la vidéo, donc quand même bon.
Ça fait du bien.
Ça fait quand même pour se tromper.
Il y a moins de vidéos que par rapport à d'autres sports.
Il y a moins de vidéos que le tennis, par exemple. Mais au niveau international, il y a un peu plus de choses qu'en France.
Ouais, alors nous, sur certains matchs avec Thaïs, on trouve qu'il y a beaucoup de vidéos. Hein. Les challenges vidéo, des fois, ça nous fatigue.
Ouais, mais ils ont qu'un nombre limité de challenges.
Oui, il y en a un nombre limité.
Il y a le droit à deux challenges. Ouais. Et si tu demandes un challenge et que tu as raison, ça compte pas. Il compte pas comme un challenge. Après. Le problème du challenge au volley, en tout cas pour l'instant, c'est que c'est long, quoi.
Oui, bah c'est ça.
C'est trop long.
On connaît bien la musique, du coup.
Ouais, mais c'est vrai que c'est trop long, ça. J'espère qu'ils vont réussir à progresser vite, parce qu'il y a des sports au tennis, ça va très vite. Il y a des sports où ça va très vite. Au rugby, ça va très vite. Mais au foot, ils sont capables d'aller très vite quand ils veulent. Donc,
ils veulent pas souvent.
Ils veulent pas toujours. Ça dépend qui demande et où c'est. Mais,
c'est autre chose.
Mais c'est vrai que c'est long. Au volley, c'est long. C'est encore long.
Toi, tu as réussi du coup ta vie dans le volley parce que maintenant tu en vis du volley. Mmh. C'est ta passion, donc tu vis de ta passion. C'est quand même quelque chose de remarquable. C'est quand même quelque chose qui est bon au quotidien, je pense, pour quelqu'un de vivre de sa passion. Mais qu'est-ce que tu aurais fait si tu n'avais pas réussi dans le volley? Quel aurait été le projet?
Alors, qu'est-ce que j'aurais fait si j'avais pas réussi dans le volley? Honnêtement, j'en ai aucune idée.
Ah ouais?
Honnêtement, j'en ai aucune
idée.
Il n'y
a jamais eu de plan B
Il y a eu des réflexions. Donc en fait, moi, comme je disais tout à l'heure, j'étais pro très tôt, à 18 ans. J'ai, après bac, arrêté mes études pour faire du volley à fond. Et je gagnais ma vie, donc c'est un peu compliqué pour mes parents de me dire de continuer mes études. Ils ont essayé de me conseiller, mais j'étais majeur et j'ai gagné ma vie, donc ouais, j'ai fait mes choix. Plus tard, je me suis rendu compte que bah, y aurait un après-volley. Donc il fallait préparer quand même un peu parce que du coup j'étais pas diplômé. Et donc j'ai commencé mes formations entraîneur vers 25-26 ans. Et en fait, c'est de là, pour moi, il était évident que je resterais dans le volley.
Ok.
Après, on sait jamais. Donc honnêtement, je m'étais dit sur la fin de carrière, je m'étais dit que si j'avais pas d'opportunité, bah, ou j'aurais fait des formations quelconques, ou je serais allé travailler à l'usine pour nourrir mes enfants, parce que faut le faire, et j'aurais pas fait un travail passion, j'aurais travaillé pour gagner ma vie. Mais oui, je suis conscient aujourd'hui que j'ai la chance de pouvoir vivre de ma passion. Ça me permet de vivre correctement, pas aisément, mais correctement. Et ça me suffit. Ça me suffit parce que j'aime mon travail et...
Et tu peux subvenir à tes besoins aussi.
Et je peux subvenir à mes besoins sans être dans la difficulté.
Très bien.
Et tout en alliant plaisir par-dessus tout.
Oui, oui, surtout d'avoir un travail qui nous plaît, je pense que c'est une chance, c'est une vraie chance aujourd'hui.
C'est le plus important.
C'est le plus important, ouais. C'est le plus important. Même s'il faut pouvoir manger quand même.
Oui, oui, bien sûr.
Mais oui, c'est le plus important. Quoi, c'est une vraie chance. C'est une vraie chance, c'est pas le cas de tout le monde.
D'autres questions?
Non, pas spécialement.
Alors, on est dans l'émission sport, hein, donc on parle de beaucoup d'autres sports. On parle souvent du sport nazérien. Est-ce que vous suivez un petit peu les autres équipes de Saint-Nazaire ou pas le temps?
Alors, je vais être très honnête, pas trop.
Pas trop.
Pas trop. Je suivais un petit peu à l'époque où j'étais joueur le rugby, mais parce qu'on s'entraînait à côté d'eux. Pas trop, je suis très la tête dans le guidon avec le volley. Je suis très fan de volley. Je regarde un peu, je suis un peu le tennis sur les grosses compétitions.
Un joueur préféré au tennis ?
Oui, il y a Nadal qui est encore là.
Ouais, toujours.
Même si peut-être pour plus très longtemps, mais qui est encore là. Après,
blessé, mais là.
Voilà, c'est ouais. Blessé, mais là. Après, moi, ma génération, j'ai quand même grand respect pour Djokovic, pour la carrière qu'il fait, qui est incroyable. Qui est incroyable. Après, les petits jeunes, bon, il y avait Alcaraz qui était en train d'exploser ouais. Un peu tout, mais qui est un peu moins bien là, ces derniers temps. Mais maintenant, je suis sur, avec les anciens.
Et au volley, est-ce que là, il y a les JO cet été. Est-ce que vous allez essayer d'aller les voir ou au moins de les suivre à la télé?
Alors, je vais les suivre, ça c'est sûr, parce que le volley, je suis l'équipe de France qui est une très belle équipe de France qui est vraiment.
Mais parce qu'ils sont champions
d'Europe.
Champions
olympiques en titre. Hein,
champions olympiques en titre. Non, champion d'Europe, ils l'ont été, mais pas là.
Non, non voilà. L'Italie. Hein.
Et ouais, ils sont champions olympiques en titre. Puis c'est une équipe un peu atypique qui prend vraiment du plaisir. On voit quand ils jouent qu'ils prennent du plaisir, que c'est une bande de copains, c'est presque une génération. Même s'ils commencent à être un peu plus vieux, parce qu'ils arrivent tous à 33, 34 ans, la génération qui va finir, à mon avis, après Paris. Ils se connaissent depuis qu'ils ont 14-15 ans, donc là c'est une équipe de France qui est une bande de copains, donc c'est assez incroyable. Ils font des résultats incroyables, on a des joueurs incroyables qui sont parmi les meilleurs du monde à leur poste, si ce n'est les meilleurs. Donc eux je les suis et je les suivrai aux Jeux Olympiques. J'ai réussi à avoir deux places pour aller voir du volley pendant les JO, mais...
Bravo
c'est à Paris.
Ouais. Oui, c'est à Paris. Ouais, c'est à Paris. Mais j'ai dû donner un bras pour les avoir. Bon. les jeux pour tous, on n'y est pas trop encore, mais je ne vais pas faire de politique là.
Non, mais en même temps, là, je pense que sans politique, on a tous pu le constater. C'est un constat à peu près généralisé et partagé. Donc,
je pense que tout le monde s'en est rendu compte.
Ouais, que ça a été très compliqué pour avoir des places ou très très cher.
Il
n'y
a pas beaucoup de places à 24 euros.
Non, c'est ça. Et que sur l'Only Sport, il n'y en avait même pas du tout. Hein, donc voilà, c'est, on regardera la télé, c'est bien. Oui. Aussi.
Et l'accessibilité aussi à Paris sera pas forcément
évident,
facile.
Ouais.
Oui, bien sûr. Tu veux y aller plusieurs jours entre le logement, le trajet. Enfin, c'est
il faudrait
compliqué.
Que,
ça va être compliqué.
Faudrait que l'équipe de France revienne à Saint-Nazaire. Ils étaient venus il y a quelques années.
Ils viennent pas s'entraîner. Non, ils viennent pas s'entraîner parce qu'il y a d'autres équipes qui viennent ici. Le cyclisme, le hand viennent ici. Est-ce que le volley est accueilli?
Non, je crois pas. Je crois pas qu'ils viennent s'entraîner ici pour préparer les JO, mais ils sont venus deux ans de suite, je crois, ou en trois ans. Ils ont joué à la soucoupe en match une fois contre les Tchèques, et puis ils avaient fait un France-France.
Un 26 août.
Et ils avaient apprécié vraiment de venir ici, donc. Donc ça serait bien qu'ils reviennent, mais après ça c'est les joueurs et...
Peut-être bientôt, on sait jamais,
peut-être.
Croise les doigts.
Ça serait bien, ça serait top. Franchement ça serait top de les revoir.
Et un joueur préféré au volley ou...
Je suis pas très objectif parce que c'est un ami, mais Genia Grebennikov est un phénomène sur son poste. Il est le meilleur du monde depuis 10 ans je pense, donc c'est quand même exceptionnel, donc je vais le mettre lui en préféré. J'ai eu la chance de jouer avec lui à Rennes à l'époque. Et après, Ervin Engapet reste un phénomène. Il a réinventé des gestes au volet, donc
impressionnant à voir jouer.
Impressionnant à voir jouer, même quand on a l'impression qu'il est pas en forme, il est encore fort. Enfin, c'est impressionnant. Et puis un vrai joueur. Lui, on voit qu'il prend du plaisir et
il est
dans
le jeu.
Rien. Ouais, et dans le jeu et dans le combat tout le temps. Enfin, c'est vraiment des très beaux joueurs.
Et qu'est-ce que vous pensez, par exemple, de la diffusion du volley? Par exemple, des fois, il y a des matchs qu'on a pu voir, je sais pas si on a le droit de citer la chaîne.
Vas-y.
Les féminins et les masculins sur la 21, on a pu les
suivre. Les féminines et les masculins.
L'équipe féminine et l'équipe masculine ont pu être suivies sur la 21. Qu'est-ce que vous pensez de la diffusion du championnat de France, par exemple, qui a été diffusé le dernier match sur Beansport? Et, mais il y en a pas beaucoup.
Il y en a très peu. Il y en a trop peu. Mais il y a un match par semaine sur Bein, le vendredi soir. Mais voilà, pour moi, c'est pas suffisant, en fait. Je pense qu'il y a une responsabilité de la fédération, surtout après les Jeux Olympiques, qui étaient assez historiques et qui avaient été suivis par beaucoup de monde. Mmh. Beaucoup de monde avait regardé le volley. Parce que c'était une première fois, même s'il y avait le hand et le basket qui avaient fait une belle compète. Le volley, c'était exceptionnel. Et je pense que la fédération n'a pas réussi à surfer là-dessus, n'a pas réussi à trouver un diffuseur. Alors après, il y a toujours des histoires de partenariat et de finances, bien sûr. Mais c'est dommage pour le volley, parce que je pense que c'est un beau sport, c'est un sport spectaculaire. Et on a besoin, pour se développer, de la télé, parce que ça ramène des partenaires, ça ramène donc des finances.
Des spectateurs aussi, beaucoup.
Spectateurs aussi, ouais. Bien sûr, même si à Saint-Nazaire, on n'a pas à se plaindre. À Saint-Nazaire, il faudrait presque
une plus grande salle.
Ouais, à Saint-Nazaire, il faudrait une plus grande salle.
Ah, ouais, parce qu'avec Thaïs, des fois, on est serré quand même.
Ah, il fait chaud, hein.
Il fait chaud,
il y a du monde, c'est serré. À Saint-Nazaire, il faudrait une plus grande salle. C'est pas un manque de spectateurs, mais ça m'a montré un... Il y a un manque de visibilité, c'est sûr, parce qu'il y aurait plus de monde.
Ça fait une plus grande ambiance.
Ouais, mais si on pouvait avoir encore un peu plus de tribunes et puis encore un peu plus de monde, ça ferait encore plus de bruit.
Il y a de la demande au SNVBA de public.
Ouais, il y a de la demande. Puis je pense que sur les gros matchs, il y a eu des gens qui n'ont pas pu rentrer, quoi. C'est pas, je pense, c'est sûr. Donc,
et puis il faut venir de bonne heure, hein.
Il faut venir de plus en plus tôt, ça devient compliqué. Non, mais.
Et les places aussi de parking, c'est pas facile de.
Ouais, puis moi, à mon âge, rester une heure et demie assise sur les petits. Enfin, on y pense à Mando. Enfin, non. Alors, si la mairie de Saint-Nazaire nous écoute, hein.
C'est le moment pour demander au club des sièges VIP.
Faudrait une autre salle. Je pense qu'il faudrait, pour pouvoir grandir encore pour le SNVBA, faudrait une plus grande salle.
Ou faire une sorte de U derrière. Enfin, il y a deux tribunes parallèles. Faire un...
Bah, ça, c'est le Amaury Architecte qui.
Ouais, parce qu'il y a des salles comme ça.
Mais c'est je crois que c'est dans les projets.
D'accord.
Après, est-ce que ça va aboutir ou pas, mais c'est dans les projets de faire d'agrandir le nombre de places.
Mais sur
de faire une tribune de plus.
Pour en revenir aux diffusions, malgré tout, on a vu aussi lors des derniers matchs de l'équipe de France, justement, en plus que les matchs pouvaient être changés un peu au dernier moment, parce que moi je me rappelle d'un match qui devait être joué un peu plus, qui a été avancé d'un jour et du coup ça tombait en même temps que
les. Bulgarie, ça.
Voilà, et que c'est tombé en même temps que le rugby. Alors ça aide pas non plus. C'est fou des choses comme France, ça, parce qu'on voit pas ça dans d'autres sports.
Le France-Italie, ouais, qui est tombé en même temps que France-Namibie.
Ouais, mais c'est surtout qu'en plus ça a changé, la date a changé. En général, des dates qui sont calées, elles sont calées quand même.
Normalement, oui.
Ouais, et c'est étonnant de voir qu'il y a des choses comme ça encore sur des sports comme le volley qui est pas.
Mais ça, c'est des petites polémiques de clubs, de pays organisateurs qui fait un peu ce qu'il veut au dernier moment.
Ah ouais, c'est la petite touche.
C'est le petit carton rouge, on pourrait dire, de ces compétitions-là.
Mais du coup, ça n'aide pas non plus pour les diffuseurs, forcément, quand il y a des choses.
Ça leur rajoute du travail.
Ouais. Non, puis c'est vrai que, bon, quand tu tombes face à une équipe de France en Coupe du Monde en France de rugby, ça aide pas, hein, non plus. Hein.
C'est sûr.
Quelle idée. Eh ben, je crois qu'on a fait pas mal le tour.
On a fait le tour.
Bon, eh ben, écoutez.
Les résultats,
on fait un petit tour.
Il y a un match demain.
Ah oui, il y a un match demain. Thaïs qui nous présente le match de demain.
Oui, je crois que si je dis pas de bêtises, c'est contre 7. Voilà.
Bon, tu sais que tu dis pas de bêtises.
à 6 contre 7.
Alors Thaïs, d'ailleurs, demain, est-ce que tu vas avec le maillot ou pas?
Non, pas le maillot, je crois.
Pourquoi pas le maillot?
Parce que je dois y aller directement et tout, c'est un peu.
Ah, donc c'est trop court.
Et donc c'est à 20h à Coubertin.
Voilà. Parce que Thaïs est supportrice avec le maillot. Hein. Maillot de.
De que... moi.
De toi. Ah voilà. Elle n'arrivait pas à choisir son joueur, alors du coup.
Elle s'est choisie elle-même.
Des fois, c'est plus efficace. Hein,
T'as pas un joueur préféré?
Si.
Et t'as pas un entraîneur préféré?
Bah maintenant, si.
En vrai, je dirais Lorenzo Martins.
Ça me surprend pas.
Et on a eu la chance de les rencontrer avec Thaïs.
Oui.
On a pu les interviewer avec Nicolas Burel.
D'accord, très sympa.
Les deux sont très sympas.
Ouais, très sympa les deux.
Et un super parcours en tout cas, pour l'instant.
Oui. Avant, c'était que Brandon Guessant, mais comme il est parti, elle a dû changer.
Il est parti à Rennes.
Ah voilà. Hugo, toi qui vas souvent, un joueur préféré?
Spencer et Martins.
Ouais, Elder Spencer aussi.
Impressionnant, lui. Hein.
Bah, et puis en plus, c'est des joueurs qui sont là depuis quelques années, donc forcément, on s'y attache.
Oui, bien sûr. Ça fait 3 ans, je crois.
Oui, bah, ils étaient là en plus pour
l'accession. En Liga,
donc,
c'est un peu, c'est les seuls qui sont restés.
Bah ouais. En volley, on doit changer souvent de club comme ça. C'est compliqué de rester longtemps dans un club.
À part quelques exceptions, ouais, c'est compliqué quand même.
Et pourquoi ? Enfin, parce que c'est vrai que c'est une question qu'on se pose.
Alors, on n'aimerait pas trop que je dise ça, mais
Non,
c'est moi. On est de la marchandise, les sportifs, donc ouais, en tout cas aussi les sportifs professionnels. Donc, c'est toujours une recherche du rapport qualité-prix. Mm-hmm. Donc, on signe des contrats très souvent de 1, 2, 3 ans, c'est presque le max. Donc après, comme je disais au début, il faut prouver, il faut performer, et puis après, si on performe, on devient aussi plus cher, la valeur elle monte, donc et puis il y a des demandes d'autres clubs, et si on n'est pas bon, la valeur elle diminue, le club veut pas nous conserver, donc c'est le jeu du sport de haut niveau, mais comme on le voit bien dans tous les sports collectifs, mais c'est comme
au handball, il y a pas de transfert sec, c'est des fins de contrat.
C'est des fins de contrat. Ça peut arriver qu'il y ait des rachats, mais c'est très rare parce que vu que c'est que des petits contrats en fait. Oui. Alors peut y avoir un accord de casser un contrat si le joueur est pas satisfait, veut partir parce qu'il estime qu'il joue pas assez et que le club est ok pour s'en séparer ou inversement. Mais généralement, c'est des fins de contrat. Ouais. On n'est pas sur des transferts comme au foot.
On a son mot à dire en tant que joueur aussi de où on va. Quoi.
Bien sûr.
Parce que c'est vrai que des fois au foot, on voit qu'il y en a qui n'ont pas toujours leur mot à dire et qui partent.
C'est d'autres les transferts financiers.
Les clubs n'ont pas les moyens. Les clubs de rugby, de foot et de hand n'ont pas les mêmes moyens que le foot.
Ouais. En même temps.
Il n'y a pas le même monde aussi.
C'est pas le même monde.
mais c'est pas la même ambiance. Enfin, c'est pas la même
mentalité.
Ouais, c'est ça.
Non. Et toi, t'as fait quand même pas mal de clubs en France. T'as fait Rennes, Aix, Martigues. T'es à jouer à Saint-Nazaire également. Mmh. Quel est le club qui t'a le plus marqué dans ta carrière, que ce soit joueur ou entraîneur?
Entraîneur, je suis jeune entraîneur. Ça fait 4 ans que j'entraîne.
Ok.
Dans 5 ans, c'est ma 5e année là, en entraîneur pro, on va dire.
Ouais.
Donc j'ai fait 4 ans à Rennes et là c'est. Première je viens d'arriver à Saint-Nazaire, première année. Et en plus, je suis sur le centre de formation, c'est encore différent. Mais en tant que joueur, oui, j'ai beaucoup bougé. J'ai fait Beauvais, Dunkerque, Aix-en-Provence. Martigues, Saint-Nazaire, j'ai joué Rennes, enfin j'ai pas mal bougé. J'ai joué en pro pendant 18 ans.
Ouais.
Quel club m'a le plus marqué, c'est un peu tous pour des raisons différentes. Il y a des clubs où je suis resté 3 à 4 ans, où je me suis fait vraiment des amis, donc ça m'a marqué plus l'entourage que le club en soi. Saint-Nazaire, comme je disais au début, le nombre de bénévoles, l'ambiance qu'il y a, même quand je suis revenu en élite, donc en 3e division, à la fin on jouait les playoffs, la salle a été pleine. C'était, je pense, pour toutes les équipes, un plaisir de venir jouer à Saint-Nazaire, parce que on était la seule salle de France, c'était comme ça. J'ai joué en tout 3 ans à Rennes et j'ai entraîné pendant 4 ans, donc je suis aussi, et mon fils est né à Rennes, donc j'ai une petite attache aussi avec Rennes, donc en fait un peu tous les clubs pour des raisons différentes, mais en fait tout Saint-Nazaire c'est ma ville d'aujourd'hui, et Rennes c'est là que mon fils est né, c'est là que j'ai passé le plus de temps en tant que joueur et entraîneur, donc voilà, je dirais que c'est là où j'ai le plus d'attache, donc la Bretagne ou pas loin, parce que je veux pas faire taper sur les doigts.
On n'est pas à la Bretagne.
C'est la Bretagne, mais voilà, c'est pour ça.
On n'est pas en Bretagne.
La Bretagne est pas loin.
D'accord, bon, très bien. D'autres questions peut-être?
Non, mais en même temps, l'émission touche à sa fin. Hein. Un grand merci à vous
d'avoir
accepté notre invitation. Et puis, on essaiera de venir voir l'équipe jouer.
Voilà. Demain contre 7.
Alors
ça c'est déjà.
Et puis merci encore et puis à bientôt dans la tribu. Et puis merci à vous, merci Clément, merci Antoine,
merci
Hugo, merci Ulysse, merci Thaïs et merci à Maury. Au revoir.
Au revoir, merci.
Détendez-vous, vous êtes sur la tribu.